Monsieur Delon.
Delon par Delon.
C'est un accident ce que je suis. Et puis d'un seul coup, on vous met une étiquette et vous êtes Delon.
C'est mon idole.
Et par Laurent Delmas.
Qu'est-ce que vous vouliez dire sur Alain Delon ?
Il est fascinant et formidable. On ne peut pas inventer ce qu'il fait. On l'a dedans et on le sort ou on ne le sort pas.
Je suis un acteur qui essaie de transposer, de ramener les personnages à mon moi personnel.
César a tout réussi, tout conquis. Tu t'inquiète pas.
Bonjour mon oncle.
Tancred.
Un samouraï. Il ne doit rien à personne. Ni au Roku, ni à ses frères.
Nadia ! Nadia, arrête-toi !
Non, reculez-moi !
Ni au clan des Siciliens.
D'accord. Mais je vous préviens que moi, on ne me vire pas d'une affaire.
As-tu entendu parler de la tulipe noire ?
La tulipe noire ?
C'est moi.
Non.
Eh oui.
Allô, Robert Klein ?
Allô, qui est à l'appareil ?
Robert Klein.
Molto bravo.
Delon en 9 épisodes.
J'étais, entre guillemets, une vedette italienne avant d'être une vedette française.
Vous parlez, vous parlez. Vous ne pensez qu'à vous.
Il restera quoi dans 5 ans, dans 10 ans, dans 20 ans de Monsieur X ou de Madame Y dans l'histoire du cinéma français ou mondial ? Rien. Moi, je resterai.
Avez-moi.
Et avez Laurent Delmas.
Et avez-vous tous.
On va tourner.
Épisode 4, un samouraï. Après avoir exploré la genèse de Delon, celle d'avant le cinéma, puis sa rencontre décisive avec René Clément, ensuite sa longue complicité en parallèle avec l'Italie, ce nouvel épisode vous emmène au pays d'un autre maître revendiqué par l'acteur, celui du cinéaste Jean-Pierre Melville.
Pour Alain et pour Monsieur Sparté, paix, bon pour moi, on la double.
L'occasion de revenir sur cette relation moins évidente qu'on ne dit, fondée sur 3 films, dont 2 au moins ont forgé la mythologie de Delon. Un samouraï, Le Cercle Rouge et Un flic.
Cette année, je reviens à De vieilles amours, le film policier, d'aventure.
3 polars singuliers devenus des classiques. 2 rôles de voyous, 1 rôle de flic. La carrière de Delon, c'est aussi ce balancement permanent entre l'ordre et le désordre. Avec la figure tutélaire de Jean-Pierre Melville au centre et un Alain Delon à la première personne du singulier dans ses films.
Merci.
Merci, monsieur.
Merci bien.
Je ne suis pas un acteur qui a une formation, si vous voulez, de cours d'art dramatique, de cours de théâtre. Je suis un acteur d'instinct, je suis un acteur qui a pris mon métier sur le tas, comme on dit. Donc je suis un acteur qui réagit, qui vit et qui essaie de transposer, de ramener les personnages à mon moi personnel. Donc c'est pour ça que dans le personnage du samouraï, je n'ai pas à le cacher, je suis un solitaire, je suis un sauvage, je suis asocial, tout le monde le sait, c'est pas nouveau. Donc évidemment, il y a beaucoup de moi dans celui-là, comme il y a beaucoup de moi dans Le Cercle Rouge, il y a beaucoup de moi dans Les Siciliens ou ce que vous voulez, bien sûr, c'est un fait. Il y a aussi beaucoup de moi au niveau de la tendresse, au niveau de certaines de mes qualités que je n'aime pas énumérer dans Rocco et ses frères. Il y a beaucoup de moi dans tous les films. La proportion varie, et je ne pourrais pas vous dire, il y a dans tel film 75% de Delon, dans un autre 25, mais il y a effectivement, dans chaque film, c'est moi, c'est moi, c'est moi.
Mais le maître Melville ne voit pas tout à fait les choses de la même manière. Il revendique tout autant la première personne du singulier pour ses personnages. Première dissonance au sein d'un drôle de couple de cinéma. Ce ne sera pas la dernière, et pourtant, l'osmose semble parfaite par ailleurs.
Je pense que il n'y a pas en France d'acteurs melvillien entre guillemets. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un acteur qui pourrait être moi complètement. C'est à moi de m'arranger pour que quand je fais jouer mes acteurs, ils aient l'air de me ressembler. Dans une émission avant-hier soir, Alain Delon parlait de son dernier film, non pas du mien, mais du professeur. Et puis, quelqu'un lui disait qu'il le préférait dans mon film que dans le sien, puisque Le Professeur, c'est un film produit par lui. Et à un moment, il a dit, mais mon regard dans un flic, ce n'est pas mon regard, c'est celui de M. Melville, etc. Bon, c'est-à-dire que je crois qu'il faut pour un créateur tenter de recréer à l'intérieur même de l'acteur le personnage qu'il a imaginé. Il faut que l'acteur soit inspiré quand il joue, autrement il donne une représentation falsifiée de ce que le créateur a voulu. Et je crois qu'en dehors de deux ou trois exceptions dans l'histoire du cinéma, jamais un acteur n'a été exactement la projection du créateur.
Entre ces deux-là, entre Delon et Melville, tout a réellement commencé avec Le Samouraï en 1967, à une époque où l'acteur a déjà tourné ses quatre films avec René Clément et ses deux films avec Visconti, sans oublier ses rôles chez Antonioni, Cavalier, Verneuil et Robert Enrico. Qui, mieux que Delon, pour raconter cette rencontre insolite autour d'un scénario mutique. Ici, au micro d'André Asseo et Jean-Claude Loiseau sur France Inter, bien des années plus tard.
Ben Melville, oui, Melville, c'est qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, c'est une personne tellement importante et des dates tellement importantes dans ma vie, dans ma carrière. En dehors de mon métier, en dehors du cinéma, en dehors de l'acteur, ce qui est beaucoup plus important pour moi, être humain, c'est mes rencontres avec Jean-Pierre Melville, homme, avec Gabin, avec Visconti, avec Clément Plus, avant le cinéma, avant leur métier. Ces hommes-là auraient pu être des peintres, auraient pu être des hommes politiques, auraient pu être des hommes d'affaires, auraient pu être des grands capitaines.
Les rencontres auraient été les mêmes.
C'eût été pareil. On est dans un autre domaine. Ça s'est trouvé dans le cinéma. C'est comme ça. Mais c'était des hommes prodigieux, d'intelligence universelle. C'est ça qui m'a tout donné, moi, tout appris, et qui a fait
ce que vous êtes.
Peut-être. Ou
L'idée Samouraï, oui. Il vous en a parlé avant de l'écrire. C'est quelque chose qu'il a fait pour vous. C'est un sujet...
Non, alors, l'idée du Samouraï...
Le personnage vous colle maintenant tellement à la peau.
Non, il l'a écrit pour moi, il l'a souhaité. Il est venu me le proposer sur la pointe des pieds. Il n'osait pas. Et il m'a fait dire un jour qu'il aimerait bien me lire quelque chose parce qu'il avait une idée de film dans laquelle il me verrait bien, etc., etc. Et je me souviens très très bien, je vais vous raconter comment est né le samouraï, enfin comment l'acceptation est née. Il est venu un jour, j'habite avenue de Messine, avec son grand chapeau, il était là, je me souviens, dans mon salon, pour me faire la lecture. Et il a commencé, j'étais avec ma femme d'ailleurs, qui était Nathalie à côté de moi, et il a commencé à me faire la lecture du scénario. Et puis au bout de... 4 ou 5 minutes, je crois, je n'avais pas encore dit un mot. Et je lui ai dit, arrêtez Jean-Pierre, c'est d'accord. Ça s'est passé comme ça.
Parce que vous n'aviez pas de dialogue, donc c'était exclusivement...
Voilà, ouais. Absolument. J'ai dit, n'allez pas plus loin, c'est d'accord. Non, parce que dès le premier mot, dès la première ligne, il y avait le verbe de Jean-Pierre,
déjà.
Tout était là. Je veux dire, parce que lui, c'était un homme de cinéma. Lui, il avait toutes les qualités, et en plus, il faut bien le dire... C'est pas pour retirer aux autres, mais en plus, il écrivait. Lui, il avait les trois qualités essentielles de Clément, de Lucchino, mais en plus, il avait l'écriture. Alors que, par exemple, René, il fallait surtout pas lui mettre le nez dans un scénario. C'était Bella qui était forte pour ça. René, il fallait le laisser avec le scénario ficelé et la caméra. Mais s'il commençait à mettre le nez dans le scénario, il démolissait tout.
Ah oui.
Alors que lui, Jean-Pierre, il écrivait en plus. C'est extraordinaire. Il a tout écrit, hein, le cercle rouge, tout.
Bien sûr,
fabuleux.
Pourquoi, d'après vous, ce film-là reste intact sur le plan de la mythologie et en même temps la mythologie qui est un peu la vôtre, quoi. Pourquoi ce film-là ? Pourquoi ce rôle-là ?
Je ne peux pas vous répondre. Je crois que c'est, là aussi, c'est la conjoncture. S'il y a des films, vous savez, qui sortent, ils sortent une année plus tard, ils n'ont pas la même résonance. Il est sorti, il y avait une rencontre entre le sujet, le metteur en scène, le personnage, l'époque, le moment. Pourquoi il y a eu d'autres cas comme ça, moins importants que le... Pourquoi Love Story ? Pourquoi ?
Oui.
Pourquoi ? Voilà.
Hein ? Mais la mythologie du personnage
est
toujours là.
Oui.
On voit aujourd'hui en 95.
Parce qu'il y a eu une fascination, peut-être une approche d'une image qui n'existait pas. Vous vous souvenez de ce que Jean-Pierre appelait le noir et blanc couleur, ce gris bleuté, parce qu'il y avait ce personnage stéréotypé comme ça, monolithique, ce chapeau.
Ce petit geste sur le chapeau, c'était une idée de Melville ou une idée de Delon ?
Oh, je crois que c'était une idée de Melville, comme Jean-Pierre me faisait mettre dans le samouraï, si vous vous souvenez, ma montre avec le cadran à l'intérieur. Oui. Ça, c'était Jean-Pierre. Oui. Il gardait toujours sa montre comme ça au bras gauche avec le cadran à l'intérieur. Ça aussi, c'était Jean-Pierre.
Pour amener une particularité au personnage par rapport à...
Mais parce que ça fait partie du directeur d'acteur, que ça fait partie. Chacun amène ses trucs. Jean-Pierre me donnait ses trucs, me les avait donnés. Moi, j'ai amené des trucs. Bon, mon truc le plus célèbre, qui peut paraître ridicule, c'était ma cigarette.
Oui.
Et quand j'expliquais aux gens qui me disaient « Mais pourquoi tu fais toujours ça, ta cigarette ?» Alors je vais t'expliquer pourquoi, parce qu'un jour, j'ai un copain qui m'est sorti de tôle, il m'expliquait qu'en prison, il roulait ses cigarettes, et comme c'était un peu trop sec, il faisait ça avant de la mettre dans la bouche.
Bien qu'il n'y ait pas l'image, parce qu'à la radio, on n'a pas l'image, vous le saviez
sans doute. Les gens s'en souviennent.
Je crois qu'on a compris ce...
Mais vous savez, nous, les acteurs... C'est notre rôle, c'est notre métier. On pique aux gens dans la rue, on prend des tics, des regards, des attitudes. C'est normal, c'est comme ça qu'on est acteur. Je veux dire, on prend des choses aux gens. Il y a des choses qui nous appartiennent, qui viennent profondément de nous. Un jour, on voit un type qui fait... puis on fait la même chose.
Vous êtes frotté le nez.
Voilà,
exemple. Là, je fais le sous-titrage radiophonique.
Laissons à Delon le soin de présenter le samouraï comme il le fit à la télévision face à un Pierre Tchernia dans sa mythique émission Monsieur Cinéma au moment de la sortie du film en octobre 1967. Non sans constater que même Delon se fait avoir par Melville, lequel n'a pas hésité à inventer une citation prétendument tirée du livre des samouraïs et placé en exergue de son film.
L'histoire du samouraï, le thème du samouraï, c'est le thème de la solitude. On pourrait résumer le film en une phrase, qui est extraite du livre sacré des samouraïs, le Bushido, qui dit ceci: « Il n'est pas de plus profonde solitude que celle du samouraï, si ce n'est celle du tigre dans sa jungle, peut-être. »
C'est très beau, cette phrase.
Je crois, oui.
Et votre personnage est un personnage complètement solitaire.
Absolument, oui. C'est un samouraï moderne, samouraï de nos jours, un samouraï qui vit à Paris, bien sûr. Et c'est l'histoire de ce tigre dans sa jungle, un peu.
Traqué.
Traqué, oui, et solitaire.
Voilà un très très beau rôle.
Oui, je crois.
Vous avez été heureux de le tourner.
J'ai été fou de joie de le tourner. J'étais sur Jean-Pierre Melville, ce qu'on pourrait dire... C'est très simple, c'est aussi très court, c'est le plus grand metteur en scène avec qui j'ai eu la chance, le plaisir et l'honneur, je dois le dire, de travailler jusqu'à présent. Ce serait trop long à expliquer, c'est fabuleux, c'est l'homme qui je crois connaît le plus et le mieux le cinéma. C'est le plus grand metteur en scène que je connaisse, c'est le plus grand opérateur, c'est le plus grand cadreur, c'est le plus grand chef opérateur, c'est le plus grand tout ce qu'on veut. C'est un dictionnaire du cinéma.
Costello, Jeff, 30 ans, sans condamnation, inconnu au sommier, correspondrait au signalement donné. Ne portait aucune arme sur lui.
L'homme portait un chapeau.
Mettez votre chapeau.
Ce n'était pas un chapeau comme ça. C'était un chapeau plus foncé. Non, c'était un chapeau clair. Mais il avait une moustache, je crois.
Pourquoi vous êtes-vous rasé la moustache, Costello ?
Je n'ai jamais porté de moustache de ma vie.
À mon avis, c'est pas lui. Où étiez-vous entre minuit et 2 heures ?
Chez ma fiancée.
Peut-on connaître le nom, l'adresse et le numéro de téléphone de cette heureuse personne ?
C'est vraiment nécessaire ?
Comme vous voulez. Mais un suspect sans alibi, ça se garde.
Jeanne Lagrange, 11 avenue de l'Amiral Bruix.
Et le téléphone ?
MacMahon, 91 73.
Chacun s'accorde à reconnaître l'incroyable réussite du film de Melville et la façon dont Delon s'est approprié le rôle. créant une silhouette immédiatement reconnaissable, fondée sur un hiératisme qui tranche dans l'univers habituel du polar. C'est sur cette dimension surnaturelle que reviennent à notre micro l'historien du cinéma et spécialiste du polar à la française, Jean Olé-Laprune, et Clélia Zernik, philosophe de l'art, auteur notamment de L'attrait du fantôme aux éditions Yellow Now.
C'est un film qui est tout sauf réaliste. Je veux dire, c'est un film totalement fantasmé. Donc, c'est ce qui me laisse à penser qu'on est plus proche du fantastique, de la science-fiction. Ces boîtes de nuit absolument improbables, cet oiseau qu'on nourrit. Ou d'ailleurs, Melville a quand même beaucoup piqué à Tueur à Gages, le film de Frank Tuttle avec Alan Ladd, où on retrouve un certain nombre d'éléments, à commencer par cet oiseau qu'Alain Delon nourrit, qui était dans le film américain. Donc, il a été réutilisé. Mais bon, il l'a transformé et puis il en a fait un film fantastique. Bien sûr, c'est un polar et tout, mais tout est tellement hors norme, ouais, hors logique, hors raison, que nous sortons du polar classique. Je dirais dessus, c'est pas La Balance ou L627. Donc,
Il y a Delon, mais qui va-t-il être ?
Clélia Zernik.
Il y a de long, mais jusqu'où va-t-il aller? Alors, le samouraï, c'est très flagrant pour ça. Parce que dans ce film, il a une immense gravité, et on ne sait pas où il va. Il est complètement mu par ce mystère de qui il est. De toute façon, toute la première partie du film, c'est de savoir identifier le tueur à gages. Donc, il y a la question de l'identité, on la retrouve dans beaucoup de ces films. Qui est-il? Est-ce que c'est Jeff Costello? Est-ce que c'est pas Jeff Costello? Et puis, au fur et à mesure, quand on sait que c'est Jeff Costello, c'est qui est-il vraiment ? Et le mystère reste jusqu'au bout, puisque son comportement est très difficile, très obscur. Et donc c'est cette obscurité-là qu'il charrie pendant tout le film, qui est rendue possible par la personne qu'il est, l'acteur qu'il est.
Oui. Il vient d'entrer dans l'immeuble du 1 rue Lord Byron.
Le cinéaste Nicolas Parizer, lui, va plus loin encore dans l'analyse du personnage du samouraï et de la façon dont Delon l'incarne à l'écran. Et si on avait affaire à un zombie ?
Il vient de sortir de l'immeuble et il a pris le métro. Suivez-le. Enfin, essayez.
Mais en y réfléchissant, je pense que plus que la question du mort-vivant, le vrai thème de l'œuvre d'Alain Delon, c'est l'absence. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui se sent absent au monde, mais qui, en même temps, est condamné à être quand même là. Donc, qu'est-ce que ça fait d'être absent, de ne pratiquement pas exister, mais de marcher quand même dans la rue, et dans son rapport avec les autres corps, avec les événements. Et un film comme le Samouraï, il y a des gens qui disent « Ah oui, mais au samouraï, au début, il est mort, et en fait, je sais pas quoi. » Bon, c'est une interprétation qui est possible. Mais moi, j'ai plus l'impression que quand Delon marche dans le samouraï, qu'il lui arrive un certain nombre de péripéties, parce que souvent, c'est marrant, chez Melville, c'est un cinéaste qui est très épuré dans la forme, enfin, il y a souvent beaucoup, beaucoup de péripéties, de personnages, d'événements. Delon n'est absolument pas à sa place. Il est le grand absent de ses films. Et c'est pourquoi est-ce que ça touche beaucoup de monde ? C'est parce que ça touche évidemment à la solitude que ressent n'importe quel être humain. C'est-à-dire qu'on est à la fois là et pas là. C'est-à-dire qu'on est à un repas de famille, on est à la fois là, mais on n'est pas là. Et donc, voir par exemple le samouraï à la suite d'un repas de famille un peu pénible, je pense que ça peut bouleverser les gens parce que c'est un sentiment extraordinairement précis et en même temps qui n'a pratiquement jamais été traité avant lui. C'est-à-dire que c'est le seul homme de cinéma à avoir traité à ce point-là ce sentiment d'avoir l'impression d'être absent au monde. Et pratiquement tous ses films parlent de ça. Il est une espèce d'accablement. Il est accablé d'être là parce qu'il a l'impression d'être pas là, mais il voit bien que autour les gens le regardent, le voient. Et il y a un très beau paradoxe, c'est que quand on est une star de cinéma, le plus souvent, comme on dit, on a juste besoin d'être là. C'est-à-dire, par exemple, Robert Mitchum, c'est quelqu'un, il joue pas, il a juste besoin d'être là. Ava Gardner, elle a juste besoin d'être là. Et Delon, il a juste besoin d'être là, mais son thème, ça va être l'absence. D'où le fait que, par exemple, je trouve ça intéressant qu'il ait fait des parfums, par exemple. Parce que le parfum, c'est typiquement ça. C'est-à-dire que quelqu'un n'est pas là, mais on sent son parfum, et donc on y pense.
Suivant.
Quant à la journaliste et critique de cinéma, Muriel Joudet, elle voit, elle, dans Le Samouraï, l'expression parfaite de la complicité, y compris cinéphile, qui liait l'acteur et le cinéaste.
Donc Melville, il en fait un acteur, pour moi, à la troisième personne. C'est-à-dire que quand on regarde long, c'est comme si on entendait « il marche, il cuisine, il court, il prend le métro ». C'est toujours du « il ». Et faire passer l'idée d'être un acteur à la troisième personne, c'est une idée absolument géniale qui vient à la fois de d'une compréhension et d'un coup de foudre, d'une histoire d'amour entre Melville, ce que Melville comprend de Delon, ce que Delon comprend de Melville, leur amour du cinéma américain.
3 ans après Le Samouraï, les deux hommes se retrouvent sur le plateau de tournage d'un film intitulé Le Cercle Rouge. L'acteur y incarne le personnage de Corret, lequel, après avoir braqué une bijouterie Place Vendôme à Paris avec ses complices joués par Yves Montand et Gianmarie Volonté, se voit traqué par le commissaire Mattei, le dernier rôle de Bourvil à l'écran.
Monsieur Mattei, vous ne saviez pas qu'un suspect doit être considéré comme un coupable ?
Pas pour moi, monsieur l'inspecteur général. Il m'est passé entre les mains tant de suspects qui étaient innocents.
C'est l'occasion pour l'acteur et le cinéaste de parler du polar devant la caméra de France Roche.
Vous avez fait Léon Morin-Prêtre, vous avez fait L'Armée des Ombres. L'un était sur la résistance, l'autre était l'étude d'un caractère de prêtre. Mais quand on regarde tous vos films, on s'aperçoit qu'il y a quand même une majorité de films dits policiers. Pourquoi ?
Disons que j'aime bien faire des films que j'aimerais voir. Et par exemple, Alain Delon et moi, nous avons un projet, c'est de tourner pour le cinéma et pour la première fois un vrai Arsène Lupin, ce qui n'a jamais été fait. Et ça, c'est tout simplement parce que depuis 41 ans, j'ai envie de voir un film sur Arsène Lupin, et j'en ai jamais vu.
Et Alain, alors vous aussi, dans votre carrière, il y a une prédominance de rôles de mauvais garçons.
Dans Le Cercle Rouge, par exemple, à mon sens, si vous me demandez quel est votre personnage, je vous répondrai, c'est un loup solitaire.
Pourquoi, Alain, affectionnez-vous justement les personnages de solitaire ? Vous êtes quelqu'un à qui tout a réussi, qui est entouré. Vous trouvez cette possibilité de solitude en vous ?
Oui, je pense que de toute façon, chacun est solitaire à un niveau différent et à des proportions différentes. Moi, je le suis sûrement, je le suis même certainement. Donc, je le trouve en moi.
Vous semblez choisir des personnages qui ne sont pas, a priori, des personnages sympathiques.
Peu importe si un personnage est sympathique ou antipathique, je crois que ce qui est plus important, c'est de savoir si on se sent collé à un personnage, si on a envie de l'interpréter, et mon Dieu, si on a envie de le jouer. Et suivant le metteur en scène qui vous dirigera. Je veux dire, Jean-Pierre peut venir demain, il le sait, il me dit « Alain, on va faire ça ». Je lui dis « Jean-Pierre, on fait ce que vous voulez ». Ça ne se passe pas de la même façon avec d'autres.
On parle beaucoup en ce moment de films qui mettent la police en mauvaise posture. Dans votre film, on voit d'ailleurs, je crois, pour la première fois à l'écran un inspecteur IGS et qui dit cette phrase qui m'a beaucoup frappée « Personne n'est innocent ». À quoi un policier lui répond « Même pas les policiers ». Il dit « Tous sont coupables ».
S'il y a en ce moment, et s'il va y avoir pléthore de films sur la police tendant à juger la police, ça n'a pas été mon propos du tout. Ce scénario est un scénario qui a été écrit quand même il y a plus de deux ans déjà, et il n'était pas question à cette époque-là de trouver que l'histoire sur les policiers était des histoires à la mode. Je me défends bien de vouloir jamais traiter d'une histoire de policier en présentant ou un schizophrène ou un paranoïaque. Mon policier à moi est un homme extrêmement normal, c'est un brave homme.
Alors, quand les hommes sont-ils coupables ?
Ben, ils peuvent être coupables un temps et puis innocents ensuite. En tout cas, mes héros ne sont pas coupables.
Et vous, Alain, qu'est-ce qui fait qu'un homme est coupable ?
Je crois que la phrase du policier est une phrase qui n'a pas grand sens. C'est une phrase de vieux policier. Moi, je ne fais pas ni discussion ni de polémique avec la police. Si j'ai un bon rôle de policier un jour, je serais ravi de l'interpréter. Il se trouve que c'est plus souvent des gangsters qu'on me présente, mais j'attends le rôle de policier.
Et quel est le plus grand péché, alors, dont on peut être coupable?
Je suis obligé de faire un rapport directement avec les miens, France. Alors là, c'est assez gênant, quand même. C'est délicat.
Non, très objectivement.
C'est un fait certain que, sur un certain plan, la trahison, pour moi, est une faute capitale.
Oui. Interrogé par Monique Berger sur France Inter, Delon relie les deux rôles de voyou qu'il a déjà incarnés chez Melville avec une insondable solitude comme point commun. Et quand il parle de ses personnages, Delon ne cesse de parler de lui-même comme il l'a toujours revendiqué et assumé.
Bon, je crois que je suis un personnage à la Melville et un personnage de Melville. C'est-à-dire que comme un peu comme dans le Samouraï, dans le Cercle Rouge, Melville est fidèle à son thème qui est la solitude. Donc je suis encore le personnage d'un solitaire. Avec cette différence près, c'est que dans le Samouraï, il y avait Jeff Costello et tout seul. Là, il y a quatre personnages. Et disons que c'est, si vous voulez, quatre solitudes qui convergent l'une vers l'autre et qui se retrouvent à la fin et voir ce qu'il succède, voir ce qu'il arrive. Mais ce qui est important avec Melville, c'est pas la profession de foi de ses personnages. Je crois que Melville prend ses personnages au second degré. Et ce qui importe, c'est ce qu'il en fait, ce qu'il devienne et ce qu'il en arrive. Peu importe s'ils sont des policiers ou de l'autre côté de la barrière.
Et quels sont vos sentiments? Quel est l'idéal qui vous anime dans ce film?
Vous parlez moi, Alain Delon, ou mon personnage?
Je parle de votre personnage.
À mon personnage, je veux dire que c'est un homme marqué par le destin. Je crois qu'aucun sentiment ne l'anime, sinon celui de l'amitié et du sens de l'honneur. C'est énorme. Mais je crois que c'est un personnage donc marqué par son destin et qui marche vers lui inexorablement et qui connaît exactement l'échéance qui l'attend.
C'est un beau rôle pour vous.
C'est un très beau rôle, oui.
Et vous continuerez ce genre de rôle?
Avec des gens comme Jean-Pierre, peu m'importe, je ne demande même pas à savoir.
L'important, je crois, est de tourner avec
L'important
Melville.
L'important est de tourner avec Melville, oui, c'est tout.
Monsieur Janssen?
Lui-même. Excusez-moi, j'étais sous ma douche. Qui était là, pareil?
Mon nom ne vous dira rien. Je suis l'ami d'un de vos amis, j'aimerais vous rencontrer.
Oui, certainement. Certainement.
Quand et où?
Je ne sais pas. Voulez-vous faire minuit?
Oui, où exactement?
Au micro de Selim Sasson, de la RTBF, plus de 20 ans après la sortie du Cercle Rouge sur les écrans.
Très bien.
Delon revient notamment sur l'amour de Melville pour le polar.
Il était pratiquement toujours très inspiré par ce cinéma américain et film noir américain, la grande époque d'avant-guerre, et il avait tendance à vouloir et à souhaiter, à désirer que tous ses films aient obligatoirement une liaison directe ou indirecte avec tel film, telle référence qu'il avait. Il connaissait merveilleusement le cinéma américain, et il y avait toujours dans ses films quelque chose, un rapport direct avec un film qui l'avait frappé ou... Il vous disait, par exemple, il vous l'a peut-être dit, j'ai vu Staircase 47 fois. Enfin bon, il connaissait tous les plans, tous les détails. Tout. Un grand monsieur, un grand homme de cinéma, un grand réalisateur, un grand auteur.
Et oui, il avait très fort aussi le sens du style, et même le style des gestes. Je crois que tout était très prévu.
Tout était très prévu, très étudié. Et je veux dire, c'était à ce niveau-là, si vous voulez, un directeur d'acteur presque comme un chef d'orchestre. Il vous dirigeait, un certain rythme de mouvement et de gestes. Et il était très sensible au mouvement des mains. C'est pas des choses par hasard, c'était très, très voulu, très souhaité.
Il faut rendre ce que tu as pris, Corey.
D'accord. De toute façon, j'avais perdu.
Entamons le dernier épisode de la collaboration pour le moins féconde entre Jean-Pierre Melville et Alain Delon. C'est le 25 octobre 1972 que sort à Paris Un flic, leur troisième et ultime film ensemble, 2 ans jour pour jour après la sortie du Cercle Rouge. L'occasion d'une rupture importante, à moins qu'il ne s'agisse en fait d'une continuité. Cette fois, Delon délaisse les voyous pour revêtir les habits du commissaire Édouard Coleman.
Au nom de la loi, je vous arrête.
Jean-Pierre a écrit une histoire de, d'homme, une histoire d'amitié entre deux hommes, et dont l'un des protagonistes est du côté de la loi.
À la vérité, j'avais l'intention de, déjà depuis longtemps, de le voir jouer un policier, mais je lui ai donné à choisir. C'est-à-dire, j'ai écrit un scénario où il y avait, disons, deux rôles principaux, qui étaient celui du policier et celui du hors-la-loi. Et pendant que je lui lisais le scénario, j'avais le secret espoir qu'il me dirait « je veux jouer le policier ».
Et j'ai choisi le rôle du commissaire de police, Ed Coleman. Donc il y avait dans le personnage du commissaire, évidemment, quelque chose de... une sorte d'exclusivité en ce qui me concerne, et qui me passionnait, qui m'attirait, qui m'intéressait davantage que le rôle encore du mauvais garçon.
Le jeudi 23 décembre, en fin d'après-midi, vous avez commis une attaque à main armée.
Quoi ?
Vous avez commis une attaque à main armée en compagnie de trois complices.
Mais vous dites n'importe quoi.
Celui-ci, je ne vous demanderai rien. Le journal écrit en toutes lettres qu'avant de mourir, il s'appelait Marc Alboué.
Vous allez avoir du mal à établir un rapport entre moi et ce type que j'ai jamais vu.
Parlons pas du passé. Ce que je veux que vous me disiez, et vite. Et vite. Ce sont les noms des deux autres. C'est tout.
Vous parlez sérieusement.
Oui, oui. Vous allez voir que oui.
Écoutons le philosophe Paul Audy nous parler du personnage de Delon dans Un flic, sa complexité et son côté obscur.
Quand il joue Un flic de Melville, alors là, ouais. C'est un personnage assez complexe, qui est placide tout au long du film, et d'un coup, il devient d'une violence et d'une sauvagerie extraordinaire face à cette prostituée qui est un indique, et qu'il gifle avec une surprise étonnante. Bon, en plus de cela, il y a, je crois, cette scène avec Catherine Deneuve, où en fait, il se retrouve dans une chambre d'hôtel.
Comment m'avez-vous trouvé ?
C'est mon métier.
Où là aussi, on sent que c'est une autre face qui va nous être révélée.
Tu n'as pas l'impression que Simon se doute de quelque chose ?
Mais comme Melville est un cinéaste très pudique, il ne fait que le suggérer.
Ouais. Il ne s'en doute pas, il sait.
Mais depuis longtemps ?
Depuis toujours.
Mais justement, voilà un flic qui a une face d'ombre, une part d'ombre.
Ce personnage inédit jusque-là de flic dans la carrière de Delon, c'est l'occasion pour Jean Olé Laprune de détailler à notre micro la généalogie d'une filmographie qui désormais oscillera entre les rôles de flic et ceux de voyous.
Et pour le reste de sa carrière, on va dire jusqu'à la fin des années 80 à peu près, il va alterner des rôles de voyous ou des rôles de policiers, parfois hésitants au moment où le film se monte. Par exemple, sur Flick Story de Jacques Deray, il hésite un certain temps, est-ce que je vais interpréter Roger Borniche, l'inspecteur de police, ou est-ce que je vais interpréter l'ignoble Émile Buisson, assassin psychopathe. Il va hésiter un certain temps, et finalement, il fera le rôle de Borniche, qui ne ressemble d'ailleurs absolument pas, et c'est Jean-Louis Trintignant qui acceptera de tenir le rôle d'Émile Buisson, un rôle où il est d'abord absolument incroyable, et un rôle de salopard fini. Et puis donc, dans cette espèce d'hésitation permanente entre le flic ou voyou, il va définitivement choisir, disons dans les années 80, il va basculer du côté de la loi avec une série de films. Donc à chaque fois, il insistait là-dessus, il fallait qu'il y ait le mot flic.
Alors qu'il y a pas la peau d'un flic,
ne réveillez pas un flic qui dort, parole de flic, voilà. Donc il y a toute une série. Et après, une fois que le filon, entre guillemets, commencera à s'épuiser, il va les retrouver à la télévision. Avec Franck Rivard, avec...
Montal.
Voilà, Fabio Montal. Donc, il deviendra flic à la télévision. Enfin, donc, mais il aura basculé définitivement à ce moment-là.
Et Jean Olé Laprune d'aller plus loin encore en inscrivant ce goût de Delon pour le polar au sein même de sa vie privée, de ses amis et de ses relations.
Alain Delon s'est exprimé à plusieurs reprises sur le polar, disant que, comme Melville, c'était le dernier lieu de tragédie des temps modernes. Je pense qu'il était fasciné, effectivement, par la loi, parce que si, dans Saint-Secret de Polichinelle, il avait beaucoup d'amitié dans le milieu, avec des voyous, même parfois des amitiés quasi adolescence, je pense à François Marcantoni, voilà. Avec qui il est resté très fidèle. Il avait également des amitiés dans la police, je veux dire, il s'entendait très bien avec Roger Borniche. Donc je pense que le flic, pour lui, c'était l'autre côté de la pièce. L'autre côté de la pièce, mais c'était tout aussi sombre et tout aussi solitaire que l'exercice du métier de voyou.
Le samouraï, le cercle rouge, un flic. Trois films, trois polars. Trois collaborations entre un cinéaste éternellement caché derrière ses lunettes noires et un acteur en totale dévotion, nous dit-on. Alors qu'en est-il vraiment ? À en croire le cinéaste Bernard Stora, qui fut l'assistant de Melville à plusieurs reprises, la vérité est, comme souvent, au milieu du chemin.
J'ai toujours vu Delon faire ça, c'est-à-dire qu'il venait, il tournait, il repartait. Et il n'avait pas plus, alors on dit, il était très ami avec Melville, peut-être, mais enfin, ils ne se tombaient pas dans les bras l'un de l'autre, et ils n'étaient pas en conversation intime, non. Il y avait un rapport de puissance à puissance, c'était très viril.
Pas de maître à élève.
Oh non. Non, Melville respectait beaucoup Delon. Là, il a créé quelque chose d'unique, et Delon était un homme extraordinairement intelligent, surtout aussi... En ce qui concerne sa propre image, et il savait très bien ce que Melville lui avait amené. Donc il y avait beaucoup de respect, mais de là à le considérer comme un maître devant lequel on se prosterne, ça c'est ce que racontent les Melville aux lattres. Mais c'est pas ce qui se passait dans la réalité.
Et Melville dans tout ça ? Que dit-il sur Alain Delon quand sur France Inter, les critiques du Masque et la Plume l'interrogent par la voix du meneur de jeu François-Régis Bastide.
C'est le dernier film que vous avez tourné avec Alain Delon ?
Un flic ?
Oui.
C'est le dernier film que j'ai tourné avec lui.
Vous ne vous tournerez plus jamais ?
Nous avons fait trois films ensemble. Un acteur pour un réalisateur de films et pour un auteur, enfin pour un créateur, c'est quand même toujours, hélas, un citron. En trois films, on le presse et tout d'un coup, on ne trouve plus une seule goutte à tirer de ce merveilleux fruit.
Dis donc, il y a pas mal de comédiens qui, en vous entendant, vont se dire...
Mais non,
il ne m'en reste plus qu'un.
Il change de metteur en scène et de réalisateur. Et moi, je change d'acteur. Avec un autre, il ne sera pas du tout un citron pressé. Il sera un citron plein. Avec moi, peut-être parce que nous nous connaissons trop, parce que nous avons pris beaucoup trop d'habitude à tourner trois films ensemble, j'ai le sentiment d'être un peu frustré. Je n'obtiens pas exactement ce que je voudrais. Ce n'est pas l'avis des spectateurs du tout, c'est mon avis personnel chaque jour.
Donc, une dernière question de Bernard Deutsch ou du public, Bernard Deutsch.
Oui, quand même, il faudrait quand même qu'on dise un mot de vos rapports avec Delon. Est-ce que Delon est votre ami ?
Ah non, pas du tout. On peut très bien travailler ensemble sans être amis. Non, je n'ai jamais entretenu avec Alain des rapports d'amitié, c'est pas vrai. D'abord, je ne suis pas tout à fait certain que qui que ce soit puisse se vanter d'être l'ami de Delon.
Je
crois que Delon est un homme qui se défend terriblement.
Ouais.
Il est sa propre forteresse, il est enfermé à l'intérieur, il ne se laisse pas grignoter, il ne se laisse pas approcher. Non, c'est un animal très sauvage, ce qui fait aussi beaucoup de ses qualités.
Oui, et vous n'avez pas eu envie de forcer cette sauvagerie
Ah non. Je respecte absolument l'attitude que les gens veulent se donner ou la profondeur de leur... défense.
Les années Melville se sont donc refermées avec un flic. Mais elles auront d'autant plus marqué la carrière de l'acteur qu'au total, près de la moitié de ses films relèvent du polar. On l'a déjà évoqué dans son premier film, « Quand la femme s'en mêle », d'Yves Allégret, en 1957, il joue un voyou un garde du corps porte-flingue, comme on les adore dans ces années-là. Des voyous donc, mais aussi des flics, tout au long d'une filmographie partagée entre le bien et le mal. Allez, refermons cette page du polar selon Delon. Et dans le prochain épisode, il sera question de chansons et de musique.
Laetitia.
On y croisera Dalida et Morricone, François de Roubaix, Françoise Hardy ou Philippe Sard, entre autres. Car même Alain Delon a chanté, en duo ou seul, comme dans le film Les Aventuriers.
Mais je ne l'entendais pas. Et tu vivais innocente, éphémère. Tu habillais nos printemps de chimères.
Delon par Delon est un podcast original de France Inter, proposé par Laurent Delmas et mis en onde par la Guépard Audrey Ripouille. Avec l'aide de la Samouraï Karen Day, de la Tulipe Noire Laura Dumez, de la Professeure Emmanuel Fournier, de la Gitane Emma Bouvier et du clan des Siciliens au mixage, Julien Thévenot, Vincent Godard et Nicolas Bonnet. Avec eux, avec nous.
Un oiseau chantait près de moi. Jamais il ne reviendra. Laetitia, non, je ne savais pas. J'étais amoureux de toi.